La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Je vous ai quitté lors de la dernière émission en abordant le mouvement surréaliste impulsé par le poète-écrivain André Breton et qui innervait différentes formes d'art, entre autres la poésie, le cinéma, la peinture. Il s'agissait surtout d'exprimer ici un état d'esprit qui prône la spontanéité et la liberté, ce qui veut dire que ce qui se manifeste à l'extérieur est le fruit d'un inconscient non revisité par la lumière du conscient. Donc ce qui vient à l'esprit est jeté sur le papier ou la toile impulsivement, instinctivement et librement. Le geste automatique naît d'une pulsion incontrôlable à son importance. Il est en rapport en quelque sorte avec l'écriture automatique. On est agi de l'intérieur. L'expression peut être dictée par des pulsions élémentaires, voire celle dont la nature serait sexuelle selon les concepts freudiens en vogue à l'époque. Lors de l'émission précédente, je vous ai dit que pour les arts plastiques, la peinture ne constituait plus le seul médium à porter sur une toile. Par exemple, Max Ernst, j'ai toujours du mal à prononcer ce mot, Max Ernst intègre le collage à ses toiles. Il utilise également la technique du frottage qu'il aurait découvert en regardant les rainures d'un parquet. Mais ce peut être d'autres matériaux et c'est ce que je trouve intéressant, notamment lorsque je me suis intéressée à l'art brut, qui est un terme inventé par le peintre-sculpteur Jean Dubuffet dans les années 40-45 pour désigner un art réalisé par des personnes sans culture artistique. Et il est vrai que les matériaux utilisés sont inhabituels. Mais je parlerai un peu plus loin de l'art brut. Pour en revenir au surréalisme, ce mouvement ouvre une nouvelle porte sur la liberté, liberté d'expression, liberté avec la technique. Prenons l'exemple d'André Masson. Ce peintre invente les tableaux de sable en laissant couler de la colle sur sa toile, puis en jetant ensuite du sable dessus. Je vous ai dit également que le surréalisme veut changer et transformer la société et donc s'implique politiquement. Vous y trouverez bon nombre d'artistes littérateurs, des peintres, des sculpteurs. J'en ai cité quelques-uns, dont les plus connus sont les peintres Dali, Miro, Magritte, Picasso, également le sculpteur Giacometti, les poètes écrivains, c'est André Breton, bien sûr, mais aussi Aragon, Éluard, Desnos, Apollinaire, entre autres. Bon, alors je ne m'attarde pas ici sur la littérature et la poésie, car c'est un vaste programme, mais c'est une des raisons pour laquelle je me permets de rappeler que sur notre radio locale, Radio Libre en Périgord, vous pouvez écouter des émissions artistiques complémentaires à celle-ci, en direct ou podcast, sur Internet par RLP, notamment celle intitulée « Balade et poésie ». Vous découvrirez la prose insolite de notre poète-écrivain Maurice Méliès, de la poésie en chanson, de la poésie lue, classique ou contemporaine. Je me permets aussi de rajouter que le printemps à Périgueux offre la possibilité de s'immerger dans le monde de la poésie contemporaine grâce à Expoésie. Une autre émission sur RLP nommée La Clé des Champs et animée par Éric Darrière propose un choix de musique hétéroclite, notamment classique, et je ne citerai pas les nombreuses autres émissions musicales proposées qui sont peut-être plus contemporaines ou exotiques, mais non moins dénuées d'intérêt. Bien, pour en revenir aux surréalistes, la plupart étaient liés au mouvement Dada, apparu également dans les années 20. Et le point commun entre tous ces artistes, c'est d'avoir subi le choc de la guerre et de chercher à prendre le contre-pied. Certains deviendront même antinationalistes. Alors le mouvement Dada s'impose par réaction. Aussi les artistes s'expriment par la dérision et la provocation. Ils affirment également une liberté d'expression à tout prix et cela ira crescendo. Alors le dadaïsme est un mouvement très cosmopolite qui apparaît à New York et à Zurich sous l'impulsion notamment de Tristan Tzara. Et du dadaïsme, Tzara dira: le dadaïsme n'a jamais reposé sur aucune théorie et n'a jamais été qu'une protestation. Alors comme les artistes veulent changer les codes, eh bien dans les arts plastiques, ils utiliseront des objets usuels à qui ils donneront un emploi différent, insolite, toujours par esprit de révolte et de provocation. Un cas extrême, c'est Marcel Duchamp, qui expose un urinoir renversé qu'il nomme Fontaine et une Joconde affublée de moustaches. C'est encore lui qui achète un porte-bouteille, le signe en affirmant qu'un objet usuel est une œuvre d'art. C'est donc à ce moment, surtout avec Duchamp, que l'art se désacralise. Ce qui veut dire aussi que les connaissances techniques et les savoir-faire passent au second plan et les notions d'esthétique sont jetées au panier, du moins pour des catégories d'artistes pour qui Duchamp reste une référence ou un point de départ pour un art qui se veut moderne et donc novateur. À mon avis, et peut-être aussi pour certains, mais pas pour tous, c'est un bon prétexte pour ne rien faire ou pas grand-chose, et ceci à moindre frais, et de préférence que ce soit rétributif. Bon, ça c'est encore une autre histoire, mais ce sont des choses qui arrivent. Car c'est vrai que c'est aussi à partir de cette forme d'art, et notamment de l'influence de Duchamp, que certains artistes d'aujourd'hui vont revendiquer leur légitimité sociale, tenir le haut du pavé grâce au soutien rétributif des institutions d'État, puisque c'est de ce courant et de Duchamp qu'émerge l'art dit conceptuel. Alors ici, avec l'art conceptuel, c'est surtout l'idée qui prime et non pas l'objet, et donc c'est le concept qui va déterminer le travail et la qualité artistique, avec souvent une mise en scène pour des installations éphémères d'objets divers où le savoir-faire et la technique sont souvent ignorés. L'art conceptuel apparaît véritablement dans les années 70, et c'est l'art à la mode et qui le restera, et l'est encore maintenant. Et la reconnaissance sociale, notamment par l'État, dépend beaucoup de la capacité de l'artiste de s'inscrire dans ce mouvement. Ce qui ne veut pas dire que les autres n'obtiennent pas de reconnaissance. Mais j'aborderai un peu plus tard la condition de l'artiste peintre-sculpteur, donc plasticien, et sa place dans la société après vous avoir présenté tous ces courants. Donc nous y reviendrons. Pour le moment, nous arrivons au milieu du XXe siècle. La Deuxième Guerre mondiale a fait ses ravages dans les têtes et dans les cœurs. Et cette après-guerre voit apparaître l'abstraction lyrique avec des artistes comme Georges Mathieu en France et Jackson Pollock aux États-Unis. On peut déjà dire que l'abstraction lyrique découle du surréalisme et va drainer un nombre important d'artistes de toute nationalité qui s'exprimeront en développant des variantes. Voilà. Bon, alors quel est le point commun entre tous ces artistes ? Eh bien, ceux-ci s'opposent à des valeurs trop strictes et réalistes. Ils affirment leur art encore sur une liberté nouvelle en se référant à ces valeurs liées à la spontanéité et à l'instinct. Aussi, logiquement, s'opposeront-ils autant à la figuration qu'à l'abstraction, si celle-ci est géométrique parce que rattachée au constructivisme et donc à des valeurs mécaniques et froides. On peut dire aussi que l'abstraction lyrique s'oppose à d'autres mouvements en cours ou naissant dans ce milieu du XXe siècle et qui sont le pop art, l'art conceptuel et le minimalisme. Mais j'aborderai par la suite ces formes d'art. Le terme lyrique fait allusion à un bouillonnement intérieur qui s'exprime par une gestuelle amplifiée et une liberté dans la manière d'appliquer la couleur par éclaboussure et projection. Et de ce courant naît le tachisme qui, comme son nom l'indique, correspond à des éclaboussures ou des traînées de couleurs sur la toile. En France, c'est le peintre Georges Mathieu qui crée en quelque sorte ce courant autour des années 50. Il dira que l'abstraction lyrique est la libération de toutes les esthétiques antérieures. Il conçoit d'ailleurs que l'histoire de l'art est jalonnée de courants qui ne sont au fond que des successions de libération par rapport aux courants antérieurs. Et là, je suis assez d'accord avec lui lorsqu'on regarde la progression de l'art au cours des siècles, et notamment les deux derniers siècles, et c'est ce que j'essaye de vous démontrer lors de ces émissions. Aux États-Unis, l'abstraction lyrique est liée à l'expressionnisme abstrait, et ce qui correspond au tachisme européen est l'action painting que Pollock a utilisé. On distingue deux attitudes en action painting. L'une est très physique, puisque l'énergie du geste va projeter la couleur sur la toile, et l'autre met davantage l'accent sur la constance de forme colorée devenant sujet elle-même. Alors dans ce courant pictural s'inscrivent des peintres, comme pour les plus connus, C'est l'allemand Hans Hartung, le russe Nicolas de Staël, l'asiatique Zhao Qi. Et je vous invite bien évidemment à faire la démarche d'aller à la rencontre de ces artistes, ne serait-ce que dans un premier temps sur Internet ou dans les bibliothèques, en attendant la possibilité de les trouver dans les musées ou lors de rétrospectives. Bon, j'espère vous avoir expliqué suffisamment clairement les objectifs et les innovations de ces artistes pour que vous vous sentiez moins démunis devant leurs œuvres. Ici, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder le peintre à l'œuvre, surtout avec l'abstraction lyrique, car il incarne une libération non seulement de la couleur qui se projette énergiquement sur une toile, mais aussi du corps de l'artiste, parce que vous voyez le geste, son ampleur, son amplitude et la spontanéité qui se dégage en entraînant tout le corps, comme si le peintre dansait avec son tableau. On peut dire ici que le peintre réalise une performance, et là c'est un terme très employé à l'heure actuelle lorsque l'artiste plasticien se met en scène devant vous. Et Internet présente sur YouTube Georges Mathieu ou Jackson Pollock, alors si vous pouvez, profitez-en. Ce que j'aime également faire pour découvrir la personne derrière l'artiste, c'est lire les biographies. Cela permet de voir les interactions entre le contexte social, la vie personnelle et le cheminement artistique. Et ça, je l'avais fait notamment avec Nicolas de Staël, dont j'apprécie la présence et la peinture. Ce peintre, vous le savez peut-être, a fini tragiquement sa courte existence puisqu'il s'est défenestré. Ce que je peux vous dire également, c'est que lire une biographie, contempler les œuvres, passer parfois dans les lieux de vie, c'est aussi cheminer avec l'artiste, apprendre à le connaître. Et j'aime ce verbe « connaître » qui signifie « naître avec ». Aussi, c'est vivre un accompagnement et un partage humain. Et je constate que très souvent, les vies d'artistes sont difficiles, irrégulières et tourmentées. Mais ça dépend. Par contre, en ce qui concerne l'attention soutenue que l'artiste porte à son activité, elle est souvent proche du sacerdoce et de cela, je vous en parle en connaissance de cause. J'apprécie d'ailleurs cette phrase d'un écrivain polonais qui se nomme Witold Gombrowicz, dont je ne connais pas les œuvres, mais qui aurait dit « L'artiste est un mouton qui se sépare du troupeau ». Mais en évoquant ces vies d'artistes, je ne peux m'empêcher de penser à un artiste en particulier qui m'a accompagnée ou que j'ai accompagnée quelques semaines. Je ne sais plus très bien dans quel sens le prendre, tant cette personne a su s'emparer de mon esprit. Alors, j'ai lu sa biographie un peu par hasard et je me suis rendu compte que j'avais aussi lu un peu aussi par hasard à la bibliothèque l'un de ses livres sur la spiritualité, livre qui à l'époque m'avait interpellée. Quoi qu'il en soit, je me suis attachée à cette personne qui s'est imposée dans mon esprit malgré son absence charnelle. Et ça a été une rencontre un peu comme une grâce et j'ai envie de dire merci. Et si vous le voulez bien, je vais raconter son histoire parce que c'est celle d'une personne peu banale et qui serait plutôt étrange pour le commun des mortels. D'ailleurs, je crois me souvenir que sa biographie, écrite par son épouse, se nomme « Le jeu d'un étrange destin ». Et son nom, c'est Édouard Salim Michael. Alors, il est né en 1921, il est de nationalité anglaise, mais d'origine mixte orientale et notamment indienne. Enfant, il a vécu au Moyen-Orient, dans différents endroits, où les activités de son père l'emmenaient. Bon, c'est quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école, il n'a pas appris à lire ni à écrire, et il s'est retrouvé après une vie d'errance, enrôlé jeune homme comme soldat anglais pour faire la Deuxième Guerre mondiale. Et dans ce contexte, la bonne rencontre d'un aumônier anglican lui a permis d'apprendre quelques rudiments de langage, de lecture et d'écriture. Et l'épouse de l'aumônier l'a initié à la musique, ce qui fut pour lui une révélation. Aussi, suite à cette découverte, il va se montrer extrêmement doué. Il brûlera les étapes jusqu'à devenir violoniste soliste et enfin compositeur, malgré qu'il ait été malmené par la guerre et par ses conditions d'existence épouvantables. Et en parallèle de ce périple musical, il reçoit une autre révélation devant une statue de Bouddha. Alors celle-ci l'interpelle si fortement qu'instinctivement, comme guidé, il prend la pose du Bouddha, se met en état de méditation et commence un cheminement spirituel très personnel qui l'amènera à chercher des réponses auprès de maîtres éclairés. Et parmi de belles rencontres, il en fera aussi de très décevantes. Mais de tout cela, il en ressortira que seules ses recherches intérieures personnelles, avec un travail quotidien sur lui-même, lui révéleront la voie à suivre et non point en suivant un guide extérieur. Mais la musique est très présente, prenante aussi. Alors il part à Paris au début des années 50 pour devenir l'élève du grand professeur Nadia Boulanger. Il persévère toujours, compose, mais hélas abandonne sa carrière de soliste pour raison de santé et essaye tant bien que mal de percer en tant que compositeur à une époque où la musique atonale, c'est-à-dire disharmonique, est à la mode. Et c'est une musique qui se positionne dans la lignée de la musique dodécaphonique que je vous ai fait écouter précédemment, mais qui aboutit à la musique sérielle, véritablement atonale. Alors nous sommes dans les années 50-60 et ces musiques s'imposent partout. Alors que lui, Édouard Michael, compose une musique tonale, c'est-à-dire avec des harmonies plus traditionnelles, hors normes actuelles, et que les radios négligent malgré l'excellente réception qu'il reçoit à chaque fois qu'il réussit à se faire écouter. Et là, je vais vous faire écouter une musique atonale, une musique sérielle, pour vous donner une idée. Alors, j'ai choisi un compositeur allemand qui se nomme Karl-Heinz Stockhausen, et c'est une composition de 1970 nommée « Mantra ». Pour en revenir à Édouard Salim Michael, je me souviens avoir lu dans sa biographie qu'il avait vécu quelques années dans la plus grande précarité. On peut dire qu'à un moment, il n'a fait que survivre. Et il a survécu quelques mois, voire des années, en dormant dans un placard, un peu par effraction et dans la plus grande discrétion vis-à-vis d'autrui. il a subsisté avec les quelques leçons de musique. Et comme il n'avait pas d'argent pour le ticket de métro, il lui arrivait de parcourir la ville à pied pour donner son cours. De plus, il vivait chaque fois un dilemme lorsqu'il devait choisir entre acheter de la nourriture ou bien du papier et des crayons pour écrire ses compositions. Et je pense que ces pratiques méditatives spirituelles lui ont permis de supporter son existence. D'ailleurs, j'ai noté cette phrase de lui où il disait « L'homme doit trouver en lui le bonheur après une évolution intérieure nécessaire et ce n'est pas l'extérieur qui lui apportera. Tout ici-bas est imparfait, éphémère, faillible, voué à la mort. L'accès à d'autres niveaux de conscience lui ouvre la porte de sa source divine. Le monde nous donne l'occasion de travailler en ce sens et c'est vivant que l'illumination doit être trouvée. » Voilà pour cette phrase, et moi je pense qu'un extrême dépouillement, de grandes épreuves sont susceptibles de faire naître ce type de réponse dans la bouche d'un être pur, en recherche malgré tout de lumière. Et sa survie psychique dépendait certainement de ce travail intérieur. En tout cas, quoi qu'il en soit, le moment est arrivé où la vie l'a placé face à un choix douloureux, ce que je peux très bien comprendre, et il a sacrifié sa musique. Et je me souviens encore de ce passage du livre où il a pris ses papiers remplis de notes de musique pour les descendre à la poubelle. Ensuite, il est parti en Inde poursuivre son périple spirituel et quand il est revenu en Europe, eh bien, il a initié d'autres personnes en demande de spiritualité jusqu'à fonder une école. Et ensuite, de fil en aiguille, grâce à l'aide de la personne qu'il a épousée par la suite, eh bien, il a écrit des livres pour diffuser le fruit de son expérience. Et il est décédé en 2006. Sur YouTube, j'ai écouté quelques vidéos car il parle de son expérience et je voulais aussi écouter sa musique que je n'ai pas trouvée en magasin. En tout cas, de la musique, il disait « Parmi les diverses formes d'art, la musique demeure peut-être la plus puissante et la forme d'expression la plus largement diffusée. » Sa fonction et son utilisation sont extrêmement variées et son effet, ainsi que son influence sur la psyché de l'homme, véritablement colossaux. Le pouvoir que la musique exerce sur toute chose peut être absolument étonnant. Sa force et son action sur l'être de l'homme sont parfois véritablement magiques, ce qui fait porter au compositeur une lourde responsabilité sur ce qu'il transmet à travers son art. Et je suis d'accord, la musique est un art majeur. Ce sont des ondes qui s'infiltrent en nous, en dehors de notre volonté, et agissent sur notre sensibilité et notre humeur. Et scientifiquement parlant, puisque j'ai lu des recherches à ce sujet, la musique émet des fréquences dont l'action se fait concrètement sentir, jusqu'à faire réagir nos organes et nos glandes, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le résultat, c'est que ces fréquences affectent nos comportements, nos humeurs, positivement ou négativement, de manière plus palpable qu'il n'y paraît. Tout cela est très intéressant et nous y reviendrons peut-être en abordant, entre autres, l'art thérapie. Il n'en reste pas moins vrai que tout être humain est quand même responsable de ce qu'il est, fait et produit, et que les artistes, quels qu'ils soient, ne doivent surtout pas minimiser leurs responsabilités et l'impact de ce qu'ils offrent au monde lorsqu'ils diffusent leurs créations. Et je vais maintenant m'arrêter de parler pour que vous puissiez écouter une composition d'Edouard Salim Michael nommée « Le chant de l'univers ». Voilà pour cet intermède musical d'un artiste dont l'esprit singulier est venu me hanter. Ceci dit, je vous parlais plus haut de l'introduction en création artistique de matériaux autres que ceux traditionnels comme la peinture, etc. Les artistes du milieu du XXe siècle à partir de 1950-60 vont aller plus loin. Et là s'affirme ce que le critique français Michel Tapier nomme l'art informel et qui signifie que toute forme est abolie. On y retrouve l'action painting dont je vous ai parlé. Le peintre, graveur, sculpteur Jean Fautrier en serait un des maîtres. Alors l'art informel est défini comme étant un art de l'improvisation et de la déstructuration. Il intervient dans le contexte de l'après-seconde guerre, un peu comme en écho à l'absurdité de la guerre et à une période qui semble elle-même déstructurée. En peintre, vous trouverez entre autres l'allemand Hans Hartung avec ses encres noires, et c'est lui qui refusa le nazisme en son temps. Puis vous avez le plasticien américain Robert Rauschenberg qui charge ses toiles de rebuts et d'objets trouvés. C'est aussi le peintre barcelonais Antoni Tàpies avec ses mélanges hétéroclites de terre, de papier, de chiffon, entremêlés de lacérations et de griffures, et qui qualifie ses œuvres de champs de bataille où les griffures se multiplient à l'infini. C'est encore le sculpteur italien Leoncio qui présente une sculpture informelle réalisée en terre cuite et qu'il nomme Saint-Sébastien, ou alors le plasticien italien Alberto Burri qui combine des matériaux bruts tels que plastique, sac de jute, vieux drap qu'il torture, coud, déchire en les combinant avec la couleur. Le matériau par lui-même est langage qui serait métaphore de blessure ou de chair lacérée. Burri influencera d'ailleurs ce que l'on nomme l'art povera, ou l'art pauvre, en partie constitué de déchets. Voilà pour ce milieu du XXe siècle, l'émission se termine, nous aborderons l'art brut et la prochaine fois, puis le pop art, et il ne me reste plus qu'à vous saluer en attendant le moment de vous retrouver.
C'était La Voix des Arts, une émission de Christine Darboux.